Comme ça faisait longtemps.
Bonsoir, il est 19h, passé de 7 minutes. Nous sommes le mercredi 13 juin 2018 et nous sommes sur le Canu Info le plus chargé de la bonne FM.
Mais de quoi allons-nous parler ce soir ?
Et nous apprêtons en tout cas à vous parler pendant au moins une petite dizaine de minutes, en commençant par l'Aquarius qui est, à l'heure qu'il est, en route vers l'Espagne. Il se trouve que Moussa a eu le verdict pour son éventuelle expulsion, voire jugement. En tout cas, on va savoir ça tout à l'heure.
Ensuite, on aura un peu d'actualité de la chanson française.
Et puis, nouvelle flottille de la liberté qui est programmée pour Gaza.
Alors, en l'espace de quelques jours, le bateau de l'Aquarius de l'ONG SOS Méditerranée, les célèbres ONG depuis, est devenu le symbole de la gestion des exilés en Europe. Avec à son bord plus de 650 personnes secourues en mer, alors même que ce vieux bateau, on le rappelle, a une capacité d'accueil comprise entre 350 et 500 personnes. Ça dépend des approximations. Il y a une journaliste qui a été interrogée, enfin qui a passé du temps sur le bateau. Elle disait, bon, au début, on comptait plutôt 350 personnes. Et là, quand même, les choses un peu se dramatisent en Méditerranée. On est plutôt sur 500 personnes. 500, ça a l'air d'être un peu quand même bien poussé. Ouais, c'est ça. Et quand on parle de capacité d'accueil, il ne s'agit pas d'imaginer, comme certaines personnes pourraient penser, que ces 500 personnes ont une cabine avec un petit lit. Pas du tout. Les gens sont entassés dans les couloirs. Voilà. Donc depuis dimanche, 650 personnes qui ont fui, on le rappelle quand même, les prisons libyennes, le régime soudanais, traversé de nombreux déserts, qui ont fui la merde, qui dans leur ensemble sont retrouvés à bord de canaux pneumatiques chargés de 10 fois leur capacité avec des pneumatiques à peine gonflés, canaux qui se sont retrouvés à la dérive et miraculeusement sauvés par l'Aquarius. Petit rappel, depuis le début de l'année, au moins 800 personnes sont mortes noyées en tentant de passer la frontière en Méditerranée, et plus de 3000 personnes pour l'année 2017. Ces personnes ont donc Ces personnes donc sauvées pour une bonne partie d'entre elles in extremis de la noyade se retrouvent entassées depuis plusieurs jours sur un bateau. Au départ, l'Aquarius avertit qu'il va accoster sur un port à Malte, ce que Malte refuse, le renvoyant vers l'Italie, qui refuse à son tour. Pour le nouveau gouvernement d'extrême droite italien, ce refus tombe à pic politiquement. Ils montrent à leurs électeurs que c'est eux ne sont pas comme les autres et qu'ils peuvent faire les gros durs en disant « Oh, regardez, nous, ce qu'on ose faire, les autres n'ont pas osé ». À noter que tout un tas de villes quand même italiennes se sont montrées solidaires du bateau en leur proposant de venir dans leur port. Chose que le bateau n'a pas fait pour une raison que j'ignore. Je sais pas si c'est qu'une fois débarqué, ils allaient de toute façon se retrouver dans la merde face à un gouvernement qui allait rien faire, ou c'était une histoire de droit. Bref, on sait pas trop. Est-ce que l'Italie ou Malte avaient le droit de refuser que ce bateau accoste ? La question est posée de partout. Moi, j'ai un peu envie de dire qu'on s'en fout. Et que même si dans les abysses du droit, un traité dérogatoire à l'obligation de secours en mer existe et donne le droit à l'Italie et Malte de se renvoyer la balle, ce n'est pas vraiment là que se situe le nœud du problème. Puisque de toute façon, des personnes en détresse ont passé 2 jours au milieu de la mer sans savoir où elles allaient aller et avec tous les dangers qu'elles continuaient de vivre. Avec l'Aquarius, on comprend un peu mieux ce que représente la loi Dublin, cette loi qui veut qu'une personne souhaitant déposer une demande d'asile en Europe a l'obligation de le faire dans son premier pays européen d'entrée, ce qui a pour conséquence de bloquer et ou de renvoyer les exilés toujours dans les mêmes pays, à savoir pour la majorité l'Italie et la Grèce, plutôt que de laisser le choix aux personnes de déposer leurs demandes dans le pays de leur choix, ce qui répartirait plus naturellement les demandes suivant les pays. Non, parce que bien sûr, la France n'est pas le seul but des gens pour venir en France. Sauf que un des buts de la loi de Dublin, c'est de renvoyer les exilés sur ces pays extérieurs, et c'est aussi de mettre la pression à ces pays ayant des frontières extérieures à l'Europe pour qu'ils exercent un max de contrôle à ces frontières, moyennant compensation financière bien sûr, avec Frontex et tout un tas d'autres trucs dont on a déjà parlé. Alors bon, dans ce contexte, effectivement, il paraissait assez évident qu'Emmanuel Macron aurait dû au minimum ne rien dire du tout, en tout cas continuer de ne rien dire, à part pour dire éventuellement au bateau de se rendre sur un port français. Mais en tout cas, ça reste assez incompréhensible qu'il se mette à faire une leçon au gouvernement d'extrême droite italien, alors que son silence le place sur la même ligne politique que Gérard Collomb, donc qui n'est toujours pas parti, qui ne fait toujours pas partie des noyés en Méditerranée, a accepté de conduire en déclarant à de moult reprises que bien sûr qu'il menait une politique migratoire dure et que si lui ne le faisait pas aux prochaines élections, c'était l'extrême droite qui passerait. Tout est dit.
Et on peut se demander si Radio Canut supporte l'humour cynique, mais au vu des politiques là, européennes. Il y a une petite blague, je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a Pince-Mi et Pince-Moi qui sont sur un bateau. Pince-Mi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste ?
Pince-Moi ?
C'est ça. Et donc, il y a le verdict pour Moussa qui est tombé. Donc, Moussa Camara, c'est un militant à Aids qui est menacé par les autorités de quitter le territoire français. Il est, malgré une lutte acharnée à Nîmes de lui-même et de plein de militants, pendant son séjour au centre de rétention, il a tenté d'être expulsé ensuite à l'aéroport de Saint-Exupéry le 3 mai pour un vol en direction de Conakry. Il a refusé de monter dans l'avion car il risque des persécutions comme militant des causes LGBTI. Et rentrer pour lui signifie prendre le risque de se faire tuer, vivre des représailles. Et on peut le comprendre, il n'a pas très envie de retourner en Guinée et il aimerait que la France l'accueille. Pourtant, l'État français ne l'entend pas de cette façon vu sa politique en matière d'accueil des réfugiés. Ils l'ont ensuite incarcéré. Motif, refus d'embarcation. La double peine a alors sévi. Après un mois au centre de rétention, voilà de la détention en prison. Enfermier, pour mieux gérer la crise pour l'État, c'est leur solution. Une solution carcérale, multiplier les délits lorsque l'on n'est pas en situation régulière en France, criminaliser les étrangers. Moussa a finalement été jugé hier, mardi 12 juin, au tribunal correctionnel de Lyon. Le jugement est tombé aux alentours de 16 heures et en l'absence d'un interprète en sous-sous. Il a été condamné à 2 mois de prison ferme et 2 ans d'interdiction du territoire français. C'est vraiment un rendu écœurant pour un faux délit, celui d'avoir fui son pays. Donc il devrait être libéré dans 2 semaines puisqu'il avait été placé en détention provisoire suite à son premier procès là, le 3 mai. Et il sera malheureusement expulsable dès sa sortie de prison. Des militants de AIDS ont demandé une annulation de la décision qui a été formulée à la justice par son avocate. Et le motif, c'est que l'interprète présent lors de l'audience ne parlait pas la bonne langue, donc le sous-sous. Et un rassemblement s'est organisé hier soir à Paris, place de la République. Et une Pride de nuit est organisée ce vendredi 15 juin à 21h, place des Terreaux. Le communiqué d'appel à cette Pride de nuit commence par justement un soutien fort à Moussa, qui a refusé d'embarquer. Et cette Pride sera de nuit, en non-mixité d'ailleurs, trans, pédéguine, LGBTI, sera l'occasion de penser fort à lui, puisqu'il est traité comme un criminel, parce qu'il est homosexuel, noir et sans papier. C'est une deuxième Pride de nuit qui a lieu à Lyon cette année. Il y en a eu une en mars. Et je vous lis un bout du communiqué. Nous réaffirmons notre positionnement radicalement politique et revendicatif et voulons créer un nouvel espace de lutte. Pour autant, nous ne nous opposons pas à la Pride officielle qui aura lieu ce samedi à 14h, que nous appelons à rejoindre puisqu'elle couvre un large champ de lutte non hétérosexuelle et qu'elle reste un moment festif et politique nécessaire, surtout dans une ville rétrograde et bourgeoise comme Lyon. Mais nous considérons que seule une Pride de nuit autonome et en non-mixité permettra d'envoyer un message sans concession contre la marchandisation et l'instrumentalisation de nos luttes. Nous refusons de servir de vernis friendly au fascisme d'État et à la violence libérale. La Pride de nuit n'est pas une gay Pride avec comme porte-parole des élites nationalistes, macronistes, blanches et bourgeoises. Nos fiertés ne sont ni patronales ni nationales. Nous ne voulons ni de la Marseillaise, ni des chars capitalistes ou d'un certain syndicalisme vendu. Voilà, et donc, quoi dire, no border, no nation, no humiliation, no deportation. Et lundi, qu'est-ce qui s'est passé ? La reine de la musette nous a quittés. Yvette est allée rejoindre le pays des boutons de nacre. Et c'était quand même le symbole des bals populaires. C'est quand même important de lui faire ce petit famage. Nous te souhaitons plein de beaux tourbillons enflammés, des soufflets en perdre le rythme et des complicités diaboliques dans ton au-delà accordéonique. Et pendant ce temps, Médine, une grande figure de la chanson française, oui, de la chanson à texte, du rap quoi, va peut-être être interdit de jouer au Bataclan cet automne. Colomb l'a confirmé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je le cite, Colomb, nous ne sommes pas maîtres de la programmation du Bataclan, mais, comme vous le savez, tout ce qui peut amener un trouble à l'ordre public peut, dans les limites de la loi, pouvoir trouver une interdiction. Vous voyez, c'est un peu tordu hein, comme déclaration. Encore un exemple, quand même, d'islamophobie flagrant à la française. Et donc, dans un texte diffusé via Twitter, Médine a renouvelé, je cite, ses condamnations passées à l'égard des abjects attentats du 13 novembre 2015 et de toutes les attaques terroristes, et fait part de son engagement contre, je le recite, toute forme de radicalisme. Il accuse l'extrême droite de tenter d'instrumentaliser la douleur des victimes et de leurs familles, et de vouloir dicter la programmation des salles de concert, et plus généralement, limiter notre liberté d'expression. Voilà. Donc vous pouvez retrouver sur son Twitter son texte. Et nous, comme on a toujours kiffé Médine, on va vous diffuser sa chanson Djihad. Parce que oui, il utilise la chanson pour balancer des messages comme on balance des pavés. Oui, il est fier d'être musulman, mais il n'appelle pas au meurtre, juste à ne pas se faire berner.
Quelques milliards d'années pour un retour en arrière. Écrivain arriéré depuis que l'homme est sur terre. Il était une fois un morceau de chair qui pour conquérir le monde, petit homme parti en guerre. D'un geste habile, Abel devient victime par le meurtre de son frère Kabil, instaure le crime. Ce furent les premiers pas sur terre des criminels. Trahison fraternelle, une femme au centre des querelles. Et le règne de l'homme suivit son cours, priant son seigneur, celui qui lui fit voir le jour. Accumulant les erreurs et les défaites, espérant trouver son coin de paradis par les conquêtes. Alors petit homme sortit son épée de son fourreau et commença à découper toutes les têtes qui se dressa devant lui. Les mauvais comme les gentils, les colosses comme les petits. Ma histoire, antiquité, Moyen-Âge et Renaissance. Une histoire sans équité obtient la rage à la naissance. Avertissement de la part des messagers à qui on tourne le dos et qui nous laisse présager. Une guerre avant une autre et un mort après l'autre. Un empire, un continent et une race contre une autre. Reste imaginaire, mythologie du Minotaure. Hercule contre Centaure, Achille contre Hector. Comme les responsables n'y sont qu'à moitié. Musulmans contre croisés, Jérusalem et Poitiers. David contre Goliath et Moussa contre Pharaon. Tous devront rendre compte quand sonnera le clairon. Et l'existence sera plus fin. Naîtra de sa poussière de défunt. Un jugement qui se déroule sans injustice, regroupant l'humanité, les dos chargés de bêtises. Mais bien avant, petit homme aura pris le temps de combattre son frère, de verser le sang d'innocents, de coupables présumés, d'instaurer un bordel pas possible en résumé. César, Attila, Alexandre le Grand, Gengis Khan, Napoléon et Guillaume le Conquérant. Le pouvoir ne fait que changer de prénom, les méthodes restent les mêmes de succession en succession. Couronné par le peuple autoproclamé, le bourreau par la victime se voit acclamé, réclamé le prix d'une liberté promise, en espérant un jour regagner la terre promise. Mujahidin, samouraï ou prétorien, mercenaires, légionnaires, soldats de plomb qui ne craint rien. Général, caporal, sous-officier, depuis le fond de nos entrailles à la guerre nous sommes initiés. Et si le monde d'aujourd'hui a changé, nous explique les génocides et leur sens caché. Qu'on nous explique les conflits qui se prolongent, le 21e siècle est bien parti dans son allonge. Explique les bouteilles de gaz, l'invention des chambres à gaz, les furtifs hélicoptères qui couplaient celles de Pégase. Le crime est dans nos têtes, enfoui dans nos mémoires. Il suffit de rien pour que le monde replonge dans le noir. Guerre offensive, défensive, guerre mondiale, guerre des nerfs, nucléaire, guerre coloniale, guerre des étoiles, guerre du feu, guerre diplomatique, guerre des mondes, guerre bactériologique, guerre froide et guerre de résistance, guerre civile, guerre de cent ans, guerre d'indépendance. Croix de guerre, chemin de croix et croix de fer, crime de guerre, cri d'enfer auquel je crois dur comme fer. L'important c'est de participer. Moi je crois bien n'avoir jamais joué à la paix. Une marguerite sur nos fusils à pompe. On déteste les armes et les fabrique en grand nombre. C'est l'industrie de l'armement, une manière comme une autre de se faire de l'argent. AK-47 et pistolets mitrailleurs, Kalachnikov et missiles Tinker, missiles roquettes, Al-Samoul et Tomahawk. Des armes de destruction massive qui nous choquent uniquement quand elles appartiennent aux autres. Après l'enquête, en fin de compte, ce sont les nôtres et on commence. Depuis le commencement, soumission, désobéissance au grand commandement. On abandonne notre poste de vertu, moralité d'acier, un vêtement des vêtus. Aucune pudeur, aucune remise en question, aucun regret, aucune larme, aucune demande de pardon. Aucun combat exercé de l'intérieur, aucune leçon tirée de toutes les erreurs antérieures. On est en vie, on meurt, entre deux on s'entretue. On se pardonne, on se trahit, le cycle se perpétue. On se délivre, on se libère pour finalement enchaîner par endosser nos prochaines machines à loin. Et moi je chante. Contre vents et marées, écoute ma chronologie pour les contrecarrer. Ceux qui choisissent la solution militaire n'ont-ils pas vu qu'elle nous dessert pour qu'on plus qu'elle nous sert. Reçois mes références, mon listing, ma rédaction. Reçois mon bilan historique et ses acteurs sans rédemption. Étudier reste la seule solution pour les blancs, les noirs, les gens issus de l'immigration. Ma richesse est culturelle, mon combat est éternel. C'est celui de l'intérieur contre mon mauvais moi-même. Mais pour le moment, les temps resteront durs. Et pour le dire, une centaine de mesures. Jihad, 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 jihad.
Et oui, et du coup, pour rajouter un tout petit truc sur cette histoire de que Colomb, là, il semble évoquer, en tout cas, cette histoire de trouble à l'ordre public, là, ça fait vraiment un texte, enfin, ou une loi qui est inscrite quelque part dans un code, je sais pas lequel, qui a vraiment une utilisation tellement large qu'effectivement, il suffit qu'il y ait, là, en l'occurrence, 1, 2, 3, puis 10 types d'extrême droite et toute leur bande qui se mettent à s'agiter sur les réseaux sociaux, que ce soit repris par les médias, tout ça, pour que du coup on dise, ah bah oui, ok, cette salle a une liberté de programmation. Medine n'a jamais été interdit d'aucune salle pour, enfin, il n'y a jamais eu de problème lors de ses concerts ou quoi. Et là, il suffit qu'il y ait des gens qui soient contre sa parution, qui se mettent à s'agiter pour qu'on utilise, enfin, vous voyez, là, en fait, au final, si ce truc-là est utilisé, bah, juste, en fait, ils auront gagné, quoi, sur leur truc. Alors, on imagine que Gérard Collomb et on a un peu rien à foutre de Medine et de défendre sa liberté de parole. En l'occurrence, on sait quand même, pour l'avoir vécu à Lyon, sa complaisance et son silence face aux actes d'extrême droite est quand même assez puissant. Du coup, voilà, ça fait un espèce de truc de pouvoir utiliser un peu ces espèces de lois dont on parle régulièrement quand même pour dire « Ah, attention, quand même, ce genre de loi, ça fait un espèce de truc un peu dangereux aux libertés publiques. » Et ben là, c'est encore une démonstration de ce truc-là, au-delà de ce qu'on peut penser de si on aime ou pas Médine. La question n'est pas là, on n'en a rien à foutre, quoi.
Et alors on continue sur une nouvelle flottille de la Liberté pour Gaza. Donc c'est 4 bateaux de la coalition pour la flottille de la Liberté qui vient d'Europe du Nord, qui vont tenter à nouveau de briser le blocus de Gaza par mer et par voie fluviale. Deux bateaux vont passer par La Rochelle, Paris et Lyon, Marseille, Martigues. Donc l'objectif, c'est l'abolition du blocus sévissant sur Gaza. Cette flottille pour la justice en Palestine revêt un caractère solidaire, politique, mais non humanitaire. Le but est d'abolir le blocus qui étrangle la bande de Gaza, pas de le rendre simplement plus humain. D'autre part, la mission espère, au-delà du fait de rejoindre Gaza, ouvrir la voie à d'autres et surtout permettre aux pêcheurs locaux de se réapproprier leurs eaux afin de pouvoir à nouveau vivre de leur métier. Depuis plus de 10 ans, le territoire de Gaza est en prison, une prison à ciel ouvert. Le blocus mis en place par Israël et appuyé par l'Égypte depuis 2013 coupe les voies maritimes, aériennes et terrestres de ce territoire. Les 2 millions de Palestiniens qui vivent à Gaza sont enfermés dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Presque la moitié des Gazaouis est en insécurité alimentaire et 80% sont dépendants de l'aide humanitaire. 70% au moins d'entre eux sont des réfugiés. Donc, dans le but de briser ce blocus illégal et de rendre visible l'injustice et la violence coloniale que subissent les Gazaouis, plusieurs flottilles de la liberté ont été initiées depuis 2008. Des actions de solidarité à destination de Gaza. Et donc 2018, en plus, marque les 70 ans de la Nakba, l'expulsion et la dépossession des Palestiniens, et souligne l'importance de leur demande constamment réitérée d'abolir le blocus de Gaza et d'appliquer enfin le droit international qui garantit le droit au retour des réfugiés et qui garantit le fait de juste vivre, faire du commerce, commercer, vendre, acheter, tout ça dans son pays, quoi. Là, les bateaux étaient regroupés à Amsterdam et ils se sont séparés. Deux ont pris la mer et deux autres des fleuves. Et ils vont se rejoindre en juillet en Méditerranée. Nous ne savons pas encore la date exacte de leur escale à Lyon, mais ce sera autour de début juillet. Ensuite, pour rappel, parce que ça fait 10 ans du coup que ces flottilles s'organisent, toutes les flottilles, sans exception depuis 2008, ont été visées par l'armée israélienne lors de leur voyage vers Gaza. Et les bateaux ont tous été attaqués dans les eaux internationales. Pourtant, les flottilles se sont accordées sur une politique stricte de non-violence. Cela contrevient donc au droit humanitaire qui préconise le principe de proportionnalité. Donc là, je veux dire, Israël, l'État israélien serait pas censé les attaquer. L'objectif de la coalition est de mettre en évidence que le droit international est gravement bafoué par la mise en place du blocus de Gaza et les attaques récurrentes contre la population civile. Donc pour plus d'informations là-dessus, il y a un site internet qui s'appelle jfp.freedomflotilla.org et sinon sur Twitter Gaza F Otia, donc 2 F Otia. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, vous avez compris. Et donc, en fait, c'est Gaza 2 F majuscule et Otia. Voilà. Et aussi, j'en profite pour rappeler, comme on a le temps aujourd'hui, que tous les vendredis, devant l'hôtel de ville de 18h à 19h, il y a des veilles silencieuses de protestation contre l'occupation de la Palestine par Israël. C'est organisé chaque semaine par les Femmes en Noir, et donc c'est des dizaines de femmes qui se retrouvent tous les vendredis depuis un sacré bout de temps. Et on en profite pour vous faire un petit clin d'œil à écouter et à lire, puisqu'il vous reste 30 minutes avant la prochaine émission. Vous avez tout à fait le temps de faire ça si vous voulez vous faire dicter un programme. C'est pour parler d'histoire de langue, de mauvaise langue, du langage en général et de l'étude des discriminations liées à la façon dont les gens parlent, je veux dire la glottophobie. Vous connaissez ?
Pas du tout.
Alors voilà, c'est les discriminations liées à la façon dont les gens parlent. Et donc, pour en savoir plus, il y a un dossier dans le dernier CQFD qui s'appelle « Mauvaise langue ». Il a été édité, ce dossier, par Yeter Akiaz. Et c'est notamment autour d'un livre qui s'appelle « Discrimination, combattre la glottophobie, analyse les mécanismes de domination qui prennent le langage et les manières de parler pour terreau ». Il y a différents entretiens, etc. Donc retrouvez ça sur CQFD. Et puis vendredi dernier, c'était l'émission de Lilith Martine et les autres qui était sur le thème de la glottophobie. Et du coup, vous pouvez retrouver, elle est publiée en ligne, l'émission. Donc c'est une émission de radio qui est nulle. Lilith Martine et les autres qui sont partis écouter les langues de France. Et Martine est allée écouter les accents et les autres façons et les autres font des dictées en créole, en patois et en breton. Voilà, n'hésitez pas à lire et écouter.
Et il est 19h32, ce qui n'empêche pas ce Canu Info de toucher à sa fin, il me semble. Est-ce qu'on a un rappel d'agenda ?
Non, mais tous les soirs de semaine, de 19h à 20h, les Canu Info.
Et donc, venez à la Pride de nuit, 21h, terreau.
Enfin, venez.
Vendredi 15 juin.
Vous êtes transpédé ou gouine.
Transpédé, gouine, LGBTI, etc.
Et pour le reste, eh bien, on vous laisse avec 27 minutes de bande continue. Et après, à 20h, vous retrouverez l'émission Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et nous, on se retrouve
mercredi prochain.
Merci de nous avoir écoutés.